Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Nous serons dans un instant au port de Valence, en Espagne, où a accosté en fin de matinée l'Aquarius, ce navire de SOS Méditerranée avec des réfugiés à son bord. Fin de l'Odyssée, récit de Yann Gallic. Theresa May vient de dévoiler un plan de financement du NHS, financement grâce à de l'argent qui allait à l'Europe et des hausses d'impôts aux correspondances de Marina Daras. Également au sommaire de cette édition, portrait croisé des deux finalistes de la présidentielle colombienne et la face cachée du globe signée ce dimanche Louis-Valentin Lopez, escale en Centrafrique et en Russie. C'est un temps politique de première importance pour la première ministre britannique, une décision de nature peut-être à la faire sortir d'une longue zone de turbulence. Theresa May vient d'annoncer lors de la grand-messe télévisuelle du dimanche matin de la BBC que le budget de NHS, l'équivalent de la sécurité sociale, allait être augmenté de 20 milliards de livres, soit 23 milliards d'euros, des fonds issus entre autres d'une enveloppe jusque-là versée à l'Union européenne. Bonjour Marina Daras.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres et vous venez d'écouter Theresa May. On en sait un peu plus quant au calendrier et aux modalités.
Oui, alors après des semaines de débats entre Philippe Hammond, le ministre des Finances, et Jeremy Hunt, le ministre de la Santé, Theresa May a finalement tranché ce matin en annonçant un plan de financement sur le moyen terme qui signifie que d'ici 2023, le NHS recevra 20 milliards de livres supplémentaires, soit 23 milliards d'euros par an. C'est une augmentation de 3,4% de son budget annuel. Un cadeau d'anniversaire qui devrait soulager le NHS qui fonctionne à flux tendu depuis des années. Mais le débat continue. Et la question qui est sur toutes les lèvres ce matin, c'est d'où viendra cet argent? D'après Theresa May, ce plan sera financé en partie par un dividende tiré du Brexit disponible une fois que le Royaume-Uni cessera de contribuer au budget de l'UE. Il y aura aussi très certainement une hausse des impôts, mais les travaillistes n'y croient pas du tout et dénoncent des promesses impossibles à réaliser. Ils dénoncent également le manque de considération pour les services sociaux qui souffrent tout autant que le NHS et qui n'ont pas été détaillés dans ce plan de financement. NHS, c'est une institution très chère aux Britanniques et qui représente un enjeu politique et électoral crucial. Theresa May, qui va bientôt entamer sa troisième année de mandat et qui se heurte chaque jour aux problèmes liés au Brexit, se devait d'agir pour tenter de sauver l'institution et aussi sauver son mandat. Mais le NHS, qui fête ses 70 ans cette année, c'est aussi un modèle profondément en crise, confronté au vieillissement de la population, à la croissance démographique et aux politiques d'austérité, et qui pourrait bien disparaître si le gouvernement ne lui donne pas le coup de boost financier dont il a tant besoin.
Merci à vous, Marina Daras, en direct de Londres. Une autre dirigeante européenne vit des heures chahutées. Il s'agit d'Angela Merkel, les conservateurs bavarois de la CSU et son ministre de l'Intérieur. La presse, en effet, de cadenasser les frontières et de ne plus accueillir de réfugiés. La pression est forte et la chancelière a confié au quotidien Bild qu'elle souhaitait en parler avec la Grèce, l'Autriche et l'Italie avant le Conseil européen des 28 et 29 juin. À cet égard, Angela Merkel reçoit mardi prochain Emmanuel Macron et tous deux sont sur la même ligne. La gestion des réfugiés doit être européenne. Le sort réservé aux centaines de passagers de l'Aquarius vient surligner l'urgence à trouver une solution européenne. Et le navire, tenu à bonne distance des côtes italiennes, a pu s'amarrer au port espagnol de Valence en milieu de matinée. Sur place, Yann Gallic.
C'est un immense soulagement pour tous les migrants de l'Aquarius. Après cette longue traversée de la Méditerranée, un voyage très éprouvant, ils peuvent enfin poser le pied à terre. Le navire de l'ONG SOS Méditerranée a pu accoster vers 11h dans le port de Valence sous les applaudissements. Les autorités espagnoles ont déployé une large banderole avec ces quelques mots « Soyez les bienvenus chez vous ». Il y avait une centaine de migrants à bord de l'Aquarius, les plus vulnérables, des mineurs isolés, des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Dès leur arrivés, ils ont été accueillis par les bénévoles de la Croix-Rouge qui ont installé des tentes et des lits de camp sur le quai. Ces migrants ont immédiatement été pris en charge par des médecins et des infirmiers qui vérifient leur état de santé avant de leur distribuer des boissons, un peu de nourriture et des trousses humanitaires avec des affaires de toilette et des vêtements propres. Les rescapés devront ensuite passer devant la police aux frontières qui va les répartir en petits groupes en fonction de leur situation. Après toutes ces vérifications, les migrants de l'Aquarius pourront enfin se reposer et se remettre de leur périple. Ils devraient rejoindre des centres d'hébergement dès que possible.
Yann Gallic, à Valence en Espagne, l'Aquarius a été affrété par SOS Méditerranée. Sa directrice générale, Sophie Beau, était évidemment à quai ce matin à Valence. Fin de mission pour les équipes de SOS Méditerranée.
si l'action s'arrête au moment où justement les personnes débarquent, on les accueille. Malheureusement, en raison des conditions de sécurité, les équipes de MSF et SOS Méditerranée, pour l'instant, ne sont pas encore autorisées à rentrer pour les accueillir. Donc, ce sont plutôt la société civile espagnole qui s'est mobilisée avec les autorités qui font ce travail d'accueil. Il faut savoir que les autorités de Valence, de l'État espagnol, de la région et de la ville, ainsi que de très 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 nombreux volontaires, ce sont plusieurs centaines, je crois même qu'il y a 2000 bénévoles de la Croix-Rouge qui sont présents et qui les entourent. Donc là, pour l'instant, on en est à l'enregistrement des premières personnes qui sont débarquées. Moi, je leur dis bienvenue avant tout. Il y a une très très grande attention et ça nous a énormément touchés dans les préparatifs du débarquement au bien-être et à la protection des personnes. C'est vraiment impressionnant cet accueil très digne et très professionnel.
Sophie Beau de SOS Méditerranée avec Matteo Maestracci. À la veille de la première épreuve du baccalauréat, la philosophie qui se déroulera en pleine grève à la SNCF, la ministre des Transports choye les syndicats dits réformistes et tacle la CGT et Sudrail. Elisabeth Borne dénonce, je cite, la grève politique de la CGT cheminots et confie avoir bon espoir d'aboutir à un accord sur la nouvelle convention collective du secteur ferroviaire avec la CFDT et l'UNSA. On ne va pas brader un siècle de conventions collectives parce qu'il y a le bac. Après, ça va être quoi? La Coupe du Monde? Les courses de Noël? Déclare ce matin Fabien Dumas, le secrétaire fédéral de Sudrail. Au lendemain d'une manifestation à Bayonne pour le rapprochement des détenus basques de l'ETA, le sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques Max Brison demande la libération de 4 Français anciens membres d'un commando incarcéré depuis 28 ans. ETA a annoncé sa dissolution en mai dernier. C'est la fin d'un contentieux historique aux multiples rejaillissements. L'ex-république yougoslave de Macédoine s'appellera sous peu Macédoine du Nord. Les ministres grecs et macédoniens des affaires étrangères ont signé un accord ce matin dans le village frontalier de Psadares. Depuis 1991 et l'indépendance de la Macédoine, le legs de la Macédoine antique incarné par Alexandre le Grand a alimenté bien des querelles et des irrédentismes. Le gouvernement du premier ministre grec Alexis Tsipras, par exemple, a récemment échappé de peu à une motion de censure. Second tour de la présidentielle colombienne avec un face-à-face droite-gauche qui en souhaite une première. S'affrontent deux lectures de l'économie, libérale chez Iván Duque, redistributrice pour son adversaire Gustavo Petro. Portrait croisé des deux finalistes avec à Bogota Marie-Ève de Teuf.
Les deux candidats font chacun leur façon figure d'outsider. Iván Duque parce qu'il était inconnu du grand public il y a encore 8 mois, Gustavo Petro parce qu'il est de gauche et que la gauche n'avait jamais été présente au deuxième tour d'un scrutin présidentiel. Les deux hommes dansent la salsa et parlent bien devant les caméras. Fin des ressemblances, Iván Duque et Gustavo Petro n'ont ni les mêmes idées, ni les mêmes trajectoires. Les parents Petro étaient de modestes professeurs mal payés. Le père d'Iván Duque a été un temps ministre. Jeune, Gustavo Petro s'était engagé dans une petite guérilla urbaine avant d'étudier l'économie. Iván Duque, lui, a obtenu son master en droit aux États-Unis, où il a vécu 12 ans. Gustavo Petro a été fonctionnaire municipal, parlementaire et maire de Bogota. Il s'est forgé une image d'homme brillant, autoritaire et arrogant. Iván Duque, qui est sénateur depuis 2014, n'a lui aucune expérience au sein de l'administration publique. Mais il est chaleureux et on le dit conciliant, voire soumis. Iván Duque obéit en tout point à l'ancien président Alvaro Uribe, son très adroit mentor. Catholique pratiquant, Iván Duque est marié, père de 3 enfants. Gustavo Petro se dit catholique lui aussi, mais il défend le mariage gay. Il a eu plusieurs femmes et 6 enfants. Les plus jeunes vont au Trey Lake, lycée français de Bogota.
Au Nicaragua, encore et toujours des violences. 8 morts hier à Managua, la capitale. Des violences malgré des discussions sous l'égide de l'église entre le clan Ortega et les alliances citoyennes. Elles reprendront demain. Il est 12h39, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe que nous présente ce dimanche Louis-Valentin Lopez. Bonjour.
Bonjour Mathieu. Quand le Soudan tente de bâillonner, ses journalistes, des agents ont saisi cette semaine des tirages entiers de 3 quotidiens. Le journal Al-Yatar, notamment un article suggéré qu'une démission du président Omar El-Béchir pourrait aider à relancer l'économie soudanaise. Le Soudan occupe la 174e place sur 180 pays au classement de la liberté de presse établi par Reporters sans frontières. Une gay pride aujourd'hui à Kiev, en Ukraine, mais un lieu tenu secret jusqu'au dernier moment. Compréhensible au vu de la vive inquiétude exprimée par des ONG cette semaine. Dans un communiqué, Human Rights Watch notamment note une recrudescence des violences homophobes, racistes ou contre les Roms en Ukraine, en cause des groupes radicaux d'extrême droite. Au Centrafrique, un tiers de la population a fui son lieu d'habitation. Un chiffre alarmant que l'on connaît grâce à l'Organisation internationale pour les migrations. Elle expérimente depuis plusieurs mois un nouveau dispositif de recensement. Mais allons au-delà des nombres pour rencontrer ces hommes, ces femmes qui tiennent les comptes. Notre correspondant Saber Gendoubi s'est rendu au cœur du Centrafrique pour déchiffrer la méthode.
Direction quartier Mambéa, Kagabandoro, dans le centre nord du Centrafrique. Tous les jours, les enquêteurs de l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, se rendent dans les quartiers ou sur les camps de déplacés. Ce matin-là, prince humanitaire de l'OIM rencontre un chef de quartier. Comme tous les mois, lui et son collègue Yannick doivent mettre à jour les estimations.
Bonjour chef.
Bonjour. C'est moi qui suis le chef du quartier Mambéa.
Pour cela, je vais vous demander un peu d'éclaircissement par rapport au nombre des ménages qui sont encore dans le quartier. Des ménages qui sont déplacés actuellement sur les sites.
Et il faut beaucoup de persévérance puisqu'il suffit d'une simple rumeur d'attaque pour voir 10, 20, 30, parfois des centaines de familles fuir leur village.
Je crois que bien avant l'événement qui s'est passé, la population de mon quartier sont déplacées pour aller dans les sites. Et après, quand il y a eu quand même un peu d'amélioration, ils sont revenus. Mais c'est compte tenu de braquage qui s'est passé tout de suite qu'il y a eu encore une dizaine qui se sont retournés encore dans le site.
Pour recueillir ces données, il faut souvent aller les chercher très loin et avec beaucoup de sang-froid.
Grâce à la mise en place des agents relais communautaires qui sont considérés comme des informateurs clés, qui nous livrent des informations à temps réel. Faute de sécurité, nous ne pouvons pas aller dans certains coins.
Des chiffres récoltés par des équipes humanitaires composées de Centrafricains. Guillaume Mamadou Sall, chef de bureau OIM à Kagabandoro.
On a préféré choisir plutôt les Centrafricains parce qu'il y a cette maîtrise de langue entre l'enquêteur et l'enquêté. Et puis il y a aussi une facilité de s'intégrer rapidement dans le groupe plutôt que des gens qui sont autres aux communautés. Parfois la maîtrise des réalités socioculturelles de la localité.
Des centaines de chiffres ensuite à traiter le soir venu, puis enfin les divulguer aux partenaires. Objectif, répondre et mieux cibler les besoins humanitaires en termes de nourriture, santé, éducation. Des chiffres donc pour dire des vies brisées, des vies en errance, des vies perdues, mais aussi des hommes et des femmes, des humanitaires centrafricains qui chaque jour, au plus près des combats, au milieu des peurs et des rumeurs, tente de dresser les bilans pour moi, journaliste, mais aussi pour vous, auditeurs et auditrices, pour vous informer notamment que la moitié de la population dépend de l'aide humanitaire et que plus d'un million de Centrafricains ont fui leur maison.
Direction maintenant la Russie. L'actualité, eh bien, ce n'est pas que le mondial de football. Cette semaine, le Kremlin a proposé un relèvement progressif de l'âge de la retraite. Les explications de notre correspondant Claude Bruyot.
C'est une décision difficile, a dit Medvedev en commentant le relèvement progressif de l'âge de la retraite d'ici à 2029. Difficile, mais indispensable, aurait pu ajouter le Premier ministre russe. Avec un déficit en jeunes travailleurs et une augmentation de l'espérance de vie, la charge des retraites commençait à devenir critique pour les finances de la Russie. Les tenants de la ligne libérale dans les arcanes du Kremlin défendent cette mesure très impopulaire en précisant que le fait d'obliger les Russes à travailler 5 années de plus de 60 à 65 ans pour les hommes et 8 années de plus de 55 à 63 ans pour les femmes, cela devrait permettre d'augmenter sensiblement le montant, en général très faible, des pensions individuelles. Cela n'empêchera pas la majorité des Russes retraités, hommes ou femmes, de continuer à avoir des activités rémunérées pour arrondir leur fin de mois. Pour la forme, cette première grande loi du quatrième mandat de Vladimir Poutine sera soumise à l'approbation des représentants du peuple, à la Douma, le peuple russe en l'occurrence, qui selon un sondage récent serait à 80% opposé à cette décision.
Enfin, en Suède, cet arrêté du conseil municipal qui fait parler, il oblige les mendiants de la ville d'Eskilstuna à demander un permis pour faire la manche. Il coûtera 150 couronnes, soit 15 €, obligatoire pour les mendiants sous peine d'amende. Objectif en façade, recenser les populations nécessiteuses et identifier des trafics. Un arrêté qui pourrait, ceci dit, être jugé inconstitutionnel. Je vous souhaite un bon dimanche.
Merci à vous, Louis-Valentin Lopez.